Et 18h sur France Culture, c'est l'heure du journal présenté ce soir par Alexandra Dubouchon. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. À quoi va ressembler la grande concertation voulue par Emmanuel Macron? Le chef de l'État planche avec ses ministres en ce moment à l'Élysée. À l'Assemblée, les députés de l'opposition, eux, étaient plutôt méfiants par avance cet après-midi, vous l'entendrez. Christophe Castaner reçoit en ce moment des syndicats de policiers, objectif calmer la grogne des fonctionnaires épuisés en mal de reconnaissance après des semaines de gilets jaunes. À l'étranger, la très fragile trêve au Yémen, les armes se font toujours entendre dans la zone portuaire stratégique d'Odeida. Un Français jugé à partir d'aujourd'hui en Allemagne, il est soupçonné d'avoir fait partie des casseurs du sommet du G20 à Hambourg en juillet 2017. Explication avec notre correspondant Ludovic Piétenu. Et puis nous irons aux États-Unis à la rencontre d'une icône des droits des femmes, icône anti-Trump, Ruth Bader Ginsburg ou RBG, juge à la Cour suprême. Ce sera un reportage signé Grégory Phillips. L'Élysée est en première ligne pour le grand débat national, cette concertation qui doit durer 3 mois et qui a été annoncée par Emmanuel Macron la semaine dernière en pleine crise des gilets jaunes. Le président de la République réunit en ce moment à l'Élysée 12 ministres et son premier ministre, des acteurs du monde économique, mais aussi Chantal Jouanneau, chargée d'organiser cette concertation. Sauf que la présidente de la Commission nationale du débat public n'apprécie pas beaucoup que l'Élysée s'empare du dossier. Elle va donc tenter ce soir de marquer son territoire. Elle a déjà lancé un avertissement à la classe politique, une lettre à Matignon, dans laquelle elle rappelle que ces réunions locales n'ont pas vocation à se transformer en meeting politique. Cela vaut pour le gouvernement, mais aussi pour les partis politiques. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous revenez de l'Assemblée nationale où les députés regardent également avec beaucoup de prudence la mise en place de cette concertation nationale.
Oui, c'est le cas de la députée Modem du Cher, Nadia Essayam, tout en résonance avec les préoccupations de Chantal Jouanneau de ne pas confisquer le débat des citoyens, car elle se souvient, Nadia Essayam, de ses expériences antérieures.
J'en ai connu qui étaient complètement ratées, je trouve, à mon sens. Par exemple, j'ai participé aux assises sur la santé du temps des socialistes. Je trouvais que c'était archi nul parce que on réunissait des citoyens, mais en fait, on avait déjà idée de ce qu'on voulait décider à la fin. Mais je pense que justement, chacun va y mettre du sien pour que ça ne le soit pas. Et de toute façon, les citoyens auront cette vigilance également.
Le député Bertrand Pancher du groupe Territoires et Liberté veille également sur ce sujet. Il est un fin connaisseur de la démocratie participative. Lui qui préside le think tank Décider Ensemble, qui cherche à promouvoir la culture de la concertation. Et voici les écueils à éviter, selon lui.
C'est de faire concerter sur des sujets alors qu'on n'a pas envie de décider. C'est qu'on fasse remonter les grandes problématiques et que ces problématiques soient examinées, mais que ça ne redescende pas chez celles et ceux qui sont concernés. Des personnes nous disant « mais vous nous avez consultés, on ne sait pas à quoi ça sert ». Et puis ensuite, les écueils, c'est qu'on ne réfléchisse pas sur la poursuite du mouvement dans le temps.
Chez les Républicains, on s'inquiète aussi du cadre. Faire croire aux Gilets jaunes, par exemple, que tout pourrait rentrer dans la concertation, c'est ce qu'explique le député Philippe Gosselin.
Il n'est pas question de balancer le président de la République. Ce n'était pas mon candidat du premier tour, mais je suis légaliste. Il a été élu. Il est là pour 5 ans, sauf s'il y avait une crise d'institution qui nécessitait d'autres choses. Mais on n'en est pas là. Je crois qu'il faut aussi le dire dès le départ en disant qu'il y a des frontières, des limites qui ne pourront pas être franchies.
Emmanuel Macron, justement, il semble tout miser sur ce débat national. Une source gouvernementale le confirmait ce midi. L'exécutif n'a pas de plan B, comme quoi la parole citoyenne n'a peut-être eu jamais autant de prix.
Anne Fauquemberg, cet après-midi, les présidents des groupes PS de l'Assemblée et du Sénat ont proposé de recourir au référendum d'initiative partagée pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, le RIP, à ne pas confondre avec le RIC, pour référendum d'initiative citoyenne qui lui est demandé par les Gilets jaunes. Et ce RIP avait été introduit dans la Constitution par l'ex-président Nicolas Sarkozy. Les députés examineront dès jeudi les mesures annoncées par Emmanuel Macron, exonération de la hausse de la CSG ou encore heures supplémentaires défiscalisées. Le projet de loi contenant ces mesures sera présenté demain en Conseil des ministres. Le chef de file des LR, Christian Jacob, a indiqué que ses députés voteraient pour à condition que les engagements soient tenus, dit-il. Vinci Rétropédale, le gestionnaire autoroutier, ne demandera pas aux automobilistes qui sont passés gratuitement aux barrières de péage ces dernières semaines de rembourser c'est leur dû. Dans un communiqué, il explique que son intention a été sans doute insuffisamment expliquée et donc mal comprise. L'annonce hier a suscité un tollé jusqu'au gouvernement. Et puis l'INSEE abaisse sa prévision de croissance pour 2018 après cette crise des gilets jaunes. Prévision à 1,5%. Cette colère jaune a aussi fait des dégâts chez les forces de l'ordre en première ligne depuis plus d'un mois pour encadrer la mobilisation des gilets jaunes mais aussi des lycéens et pour sécuriser les lieux publics dans un contexte de risque attentat. Les policiers sont à bout, épuisés. Ils attendent un geste du ministre de l'Intérieur. Trois syndicats de police sont reçus en ce moment à Beauvau et avant même l'issue de cette réunion, ils ont commencé à lancer des actions et pour l'instant, David Ravier, c'est à chacun sa méthode.
Les syndicats de police veulent démarrer l'acte 1 de leur colère face au dénuement dans lequel ils disent se trouver. Si leurs revendications sont multiples, tous appellent à une meilleure reconnaissance de leur métier et de leurs conditions de travail après un mois sous haute tension avec les gilets jaunes. Depuis ce matin, l'UNSA Police a mis en place une journée de service minimum, c'est-à-dire qu'ils ne verbalisent plus aucune infraction, sauf si elles sont graves. Le syndicat Alliance, quant à lui, va plus loin. À partir de demain, il appelle les policiers à bloquer les commissariats et ne prendre en compte que les appels d'urgence qui nécessiteraient une intervention. Le syndicat entend ainsi mettre la pression sur le gouvernement et les députés qui doivent voter jeudi le budget 2019 pour la police. Le syndicat SGP Police, qui est majoritaire dans la profession, veut également mobiliser ses adhérents. Si pour l'instant ils n'ont rien décidé, ils attendent de voir ce qui ressortira de la réunion avec le ministre de l'Intérieur. Dans l'éventualité où cet échange ne leur donne pas satisfaction, ce qui est très probable, ils épauleront leurs collègues d'Alliance pour assurer le blocage des commissariats à partir de demain. Et peu importe ce qui ressortira de la réunion avec Christophe Castaner, les policiers ont déjà décidé de descendre dans les rues pour manifester le 26 janvier prochain.
David Ravier pour France Culture. La grogne aussi des retraités. 9 organisations syndicales appellent à manifester aujourd'hui dans toute la France pour défendre le pouvoir d'achat. Ce matin, le gouvernement a confirmé que les retraités qui seront exemptés de la hausse de la CSG en 2019 la paieront quand même les 6 premiers mois de l'année avant d'être remboursés durant l'été. Eux aussi sont descendus dans les rues ces derniers jours ou bloqué leurs établissements. Les lycéens qui protestaient contre la réforme du lycée et du bac. L'un des volets de ce texte, c'est l'arrivée de spécialistes en lieu et place des filières traditionnelles LS et ES. Sauf que chaque lycée peut choisir ses spécialités. Alors qui va choisir quoi ? Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Alexandra Dubouchon.
La carte de France commence à se dessiner et avec elle la menace d'inégalité territoriale, ce qui inquiète les syndicats de lycéens mais aussi d'enseignants et les élus.
Oui, avec la réforme du bac, les élèves de seconde vont devoir choisir au deuxième trimestre 3 spécialités pour la classe de première, puis 2 spécialités pour la classe de terminale. Terminer donc les filières S, ES et L. Théoriquement, la réforme en prévoit 12 de spécialités au choix, sauf que dans la réalité, les lycées n'en proposeront en moyenne que 7, voire même parfois à peine 3 ou 4, voire 5 en zone d'éducation prioritaire ou en zone rurale. Ce qui ne surprend pas outre mesure, Philippe Vincent, secrétaire général du SNP. P2N, le principal syndicat des chefs d'établissement.
De toute façon, tous les établissements n'avaient déjà pas l'ensemble des options ou des spécialités possibles. On ne faisait pas, par exemple, art du cirque, on ne faisait pas LV3 chinois dans tous les établissements de France et de Navarre. Donc on peut penser qu'il y a une carte basique, au moins des 7 spécialités les plus courantes qui devraient être implantées dans tous les établissements. Ensuite se posera la question de celles un peu moins faciles à implanter, soit parce que l'établissement n'a pas la ressource, je pense à numérique et sciences informatiques ou je pense à sciences de l'ingénieur, et qui de toute façon n'étaient pas déjà implantées dans tous les établissements non plus.
Des arguments que n'accepte pas du tout Stéphane Troussel, le président du département de la Seine-Saint-Denis, qui est le plus pauvre de France. Selon lui, la réforme va au contraire accroître les inégalités et aussi l'autocensure chez les jeunes lycéens de banlieue.
Les élèves des quartiers populaires vont être soumis à des choix par défaut en fonction du nombre de places, en fonction du secteur ou encore des temps de transport. Et moi, je ne peux pas l'accepter parce que le ministre dit aux élèves de seconde, vous avez la liberté de choisir en suivant vos goûts et vos centres d'intérêt. Mais cette affirmation, elle se confronte justement à la réalité de cette carte des formations.
Les académies ont jusqu'à vendredi pour publier définitivement leur carte des spécialités.
Merci Hakim. Les Uber devant les prud'hommes, plusieurs chauffeurs et anciens chauffeurs VTC attaquent la plateforme américaine en France. Après un an et demi de procédure, première audience cet après-midi, ces chauffeurs, Catherine Pétillon, demandent à ce qu'Uber soit reconnu comme leur employeur.
Oui, car ils estiment qu'en décidant de toutes les conditions de travail, à commencer par les prix, Uber agit avec eux comme un patron, qui d'ailleurs n'hésite pas à prendre des sanctions, explique Christophe, l'un des plaignants, chauffeur VTC depuis 3 ans.
Si on refuse des courses quand on nous les envoie, si on a un taux d'acceptation qui est faible ou une note qui est faible, on peut être sanctionné. Moi, ça m'arrivait, pendant une semaine, ils m'ont bloqué mon compte parce que je refusais trop de courses, parce qu'elles étaient trop loin ou autre. Et pendant une semaine, je ne pouvais plus du tout me connecter à l'application. Donc du coup, plus travailler.
Du côté d'Uber, la ligne est tout autre. L'entreprise affirme qu'elle ne fait que mettre en relation un passager et un chauffeur. Autrement dit, qu'il s'agit d'une relation commerciale et non pas d'un contrat de travail. Jusqu'à présent, les prud'hommes lui ont donné raison et ont débouté les plaignants. Seulement, une jurisprudence inédite et de poids est intervenue entre-temps. Fin novembre, la Cour de cassation a reconnu qu'il y avait, entre un coursier à vélo et la société Take It Easy, désormais fermée, une relation de subordination. Et Sylvie Topaloff, l'une des avocates des chauffeurs, entend démontrer qu'il en va de même avec les Uber.
Contrairement à une plateforme de mise en relation, comme peut l'être la société eBay, la société Uber, elle, à partir du moment où le passager monte dans la voiture, l'ensemble de la prestation de travail est entièrement contrôlé par la société Uber, qui a un système de géolocalisation pour suivre en temps réel le chauffeur et qui a un pouvoir de sanction sur ce chauffeur.
Alors, les prud'hommes suivront-ils la voie ouverte par la Cour de cassation? La décision a été mise en délibéré au 11 mars.
Catherine Pétillon, un ancien député a été condamné aujourd'hui par le tribunal de Paris lors d'une audience particulièrement symbolique après la présidentielle de 2017, car elle concerne un emploi fictif d'assistant parlementaire. Alain Marceau, un ancien député, donc Les Républicains, écope d'un an de prison avec sursis, 300 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité pour avoir rémunéré sa fille. L'ancien élu, qui a plaidé coupable, est le premier parlementaire condamné dans une telle procédure initiée par le parquet national financier. Sarah Guibaudot.
Lors d'une courte audience publique, Alain Marceau, 69 ans, écoute la présidente de la 32e chambre correctionnelle résumer les faits de détournement de fonds publics qui lui sont reprochés. Pendant 4 ans, entre 2005 et 2007, puis entre 2012 et 2014, sa fille a été rémunérée pour un emploi fictif d'assistante parlementaire. Sa fille, qui n'est pas mise en cause, l'argent, 204 000 euros, a été saisi sur un compte bancaire sur lequel Alain Marceau avait procuration. Il sera reversé à l'Assemblée nationale, partie civile, une confiscation qui s'ajoute aux 300 000 euros d'amende à payer. L'ancien député LR n'a rien à ajouter. « J'ai fait une erreur, je le regrette », lâche-t-il brièvement à la sortie. Le procureur souligne qu'Alain Marceau n'a jamais contesté les faits, contrairement à d'autres parlementaires confrontés à des affaires similaires. Combien exactement? En dehors de François Fillon, on ne le sait pas. L'enquête sur Alain Marceau, déclenchée il y a un an par un signalement de Tracfin, a été conduite dans la plus grande confidentialité au parquet national financier. On estime que c'est aussi cela qui permet d'aboutir rapidement et de faire accepter une peine que la défense juge sévère.
Et à propos de l'affaire François Fillon, l'instruction est terminée. On attend les réquisitions du parquet national financier avant un éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel. France Culture 18h12, le cessez-le-feu est fragile au Yémen. Même si ça s'est calmé, les armes se font toujours entendre dans la zone portuaire stratégique d'Odeida, tenue par les rebelles Houthis. Officiellement pourtant, la trêve annoncée avec fierté la semaine dernière par le patron de l'ONU a commencé à minuit cette nuit. Mais cette trêve n'est pas si facile que ça à appliquer sur le terrain. Faria Al-Mouslimi est un chercheur yéménite. Écoutez.
Il y a un problème au sujet d'Odeida, un obstacle qui empêche d'avancer. Le principal désaccord concerne le port de la ville, car l'activité de cette zone portuaire représente 25% du budget des Houthis. Et l'accord prévoit que ces revenus soient redirigés vers la Banque centrale du Yémen, à condition que cette même Banque centrale du Yémen paie les salaires de tous les fonctionnaires du pays. Or, pour l'instant, la Banque centrale du Yémen n'est pas tenue par cet accord. Elle ne s'est pas engagée sur ce point. Ce qui signifie que la question la plus importante, celle dont dépend entièrement l'accord sur Odeida, n'a pas fait l'objet de négociations. Concrètement, il sera impossible de régler le sort d'Odeida sans une solution sur le plan économique. Actuellement, il y a un cessez-le-feu et des combats sporadiques. Le calme est revenu dans certains quartiers et pas dans d'autres. Il sera très difficile d'imposer un cessez-le-feu total.
Le chercheur yéménite Faria Al-Mouslimi, interviewé par Omar Waman alors qu'il était de passage à Paris pour rencontrer des conseillers de l'Élysée. La guerre au Yémen dure depuis près de 5 ans. Des millions de personnes sont menacées de famine. De nouveaux pourparlers pourraient avoir lieu fin janvier. La tension monte en République démocratique du Congo. À 5 jours de l'élection présidentielle, une femme a été tuée par un tir de militaire ce mardi en marge d'une manifestation contre la venue du candidat de l'actuel président, Joseph Kabila. C'était à Tshikapa, dans le centre du pays. C'était il y a un an et demi. L'Allemagne découvrait choquée le bilan des dégâts des casseurs lors du sommet du G20 à Hambourg. Le sommet était le théâtre de violents affrontements, de scènes de chaos pendant plusieurs jours. Bilan, 1 million d'euros de dégâts, près de 500 policiers blessés, 186 interpellations et un procès qui s'ouvre aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir à toutes et à tous.
Correspondant de France Culture en Allemagne. Et sur le banc des prévenus, Ludovic, 5 personnes, dont un Français.
Oui, il a 23 ans, il est originaire de la région de Nancy. La France l'a extradé il y a peu de temps vers l'Allemagne, le 5 octobre, où il est donc détenu jusqu'à l'attente du verdict, le prononcé d'une peine qui peut atteindre, outre une lourde condamnation financière, 10 ans de prison pour lui et deux des quatre autres prévenus, quatre Allemands venus de Hesse, mais dont deux étaient mineurs au moment des faits et ne risquent pas la prison. Ils étaient tous, ce matin du 7 juillet 2017, à Hambourg. Les caméras de surveillance l'attestent. Elles ont plusieurs fois et à différents endroits permis de les voir s'habiller intégralement en noir comme les 200 et quelques autres manifestants. Mais la défense a pour elle un argument et non des moindres. Il pourrait même rendre l'acte d'accusation inconstitutionnel. Il n'y a aucune preuve sur ces images qu'ils ont commis des violences ou des dégradations. Les avocats accusent le procureur de vouloir en faire des exemples, la police n'ayant pas réussi à arrêter les casseurs. L'un des avocats s'indigne. Quiconque participe pacifiquement à une manifestation où s'exerce la violence est punissable du seul fait de sa présence. C'est un signal fatal pour la démocratie, poursuit-il, une atteinte à la liberté fondamentale de manifester. Voilà comment les débats ont été posés pour cette première journée d'audience que les cinq accusés ont quitté le point levé et sous les applaudissements d'un public très nombreux venu les soutenir.
Ludovic Piétenu, envoyé spécial permanent à Berlin. Après cette première journée, le procès va reprendre en janvier. En Italie, c'est le projet de l'architecte star italien Renzo Piano qui a été retenu cet après-midi pour le nouveau pont de Gênes. L'effondrement du viaduc Morandi le 14 août dernier avait fait 43 morts et ce nouvel édifice devrait être prêt dans un an. Nous vous emmenons à présent à la rencontre d'une femme d'exception, l'une des femmes les plus respectées des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, 85 ans, fille d'émigrés, devenue avocate spécialiste des droits des femmes et puis magistrate à la Cour suprême. Notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips, l'a rencontrée. C'était à l'occasion d'une cérémonie de naturalisation de 31 personne dans l'impressionnant bâtiment des archives nationales à Washington.
Otnell Maduri, Jamaica. Shihab El-Khogali, Sudan.
À l'appel de son nom, chacun se lève, passablement impressionné. Il faut dire que le lieu où se déroule cette cérémonie est en lui-même impressionnant, dans la rotonde des archives nationales où sont exposés les documents fondateurs, la Constitution des États-Unis, le Bill of Rights, les 10 premiers amendements et la Déclaration d'indépendance de 1776. Puis, toutes ensemble, ces 31 personnes venues de 26 pays prononcent le serment d'allégeance.
Please raise your right hand and repeat after me. I hereby declare on oath.
Alors, Ruth Bader Ginsburg monte sur la petite estrade et s'adresse à ces hommes et à ces femmes qui viennent d'acquérir la citoyenneté américaine. À 85 ans, RBG, comme tout le monde la surnomme ici, est l'une des femmes les plus puissantes du pays, magistrate à la Cour suprême des États-Unis depuis près de 25 ans. Auparavant, avocate militante du droit des femmes, Bader Ginsburg est devenue au fil des ans l'icône des progressistes américains. Elle a fait l'objet de documentaires, d'un film sur sa vie, de dizaines de livres. On peut même trouver dans les boutiques de Washington des poupées ou des mugs à son effigie. Bref, c'est elle, RBG, qui vient raconter à ces nouveaux Américains son histoire et ce que signifie à ses yeux le fait de devenir citoyen des États-Unis.
Thank you, my fellow Americans. It is my great privilege to welcome you to citizenship.
Mes chers concitoyens, c'est un privilège pour moi de vous accueillir ainsi dans la citoyenneté de ce pays, de cette démocratie que sont les États-Unis d'Amérique. Nous sommes une nation qui a été rendue plus forte grâce à des gens comme vous. Mon propre père est arrivé dans ce pays à l'âge de 13 ans, sans aucun argent et sans parler anglais. Il est devenu comptable. Ma mère est née ici, 4 mois après que ses parents sont arrivés par bateau à Ellis Island. Connaissez-vous la différence entre un petit comptable de New York et une juge à la Cour suprême ? La différence est une génération, et j'en suis la preuve vivante. Maintenant, c'est à vous de jouer. Votez aux élections et aidez-nous à améliorer encore notre union.
Après la cérémonie, chacun repart avec un certificat et un petit drapeau américain à la main. Tout le monde est convié à un buffet, les familles sont là, on se félicite. Et parmi ces 31 nouveaux citoyens américains, voici dans l'ordre Camille Dananofer-Lafage, venue de France, et Amina Abdulkarim, née au Nigeria.
C'est vraiment spécial pour moi d'avoir pu lui serrer la main et d'avoir pu écouter son discours sur la citoyenneté. Malgré le climat politique, il y a quand même des éléments fondateurs qui sont toujours présents et je suis ravie de pouvoir en joindre les rangs.
Regardez, me voilà, heureuse. Pour moi, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. J'espère pouvoir travailler pour le gouvernement, dans le domaine de la sécurité. Et surtout, je vais pouvoir voter, donner enfin mon opinion.
Comme Camille et Amina, environ 700 000 personnes chaque année empruntent le même chemin vers la citoyenneté américaine, avec à chaque fois une cérémonie similaire.
Reportage de Grégory Phillips à Washington. La météo en France, un temps très chargé demain, d'abord sur l'est puis vers l'ouest, avec de la pluie en plaine, parfois des orages. Attention aux rafales de vent sur la côte atlantique. Seul le sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie resteront à l'écart du temps agité, mais de rares précipitations sont à prévoir. Les températures demain matin comptaient 4 à 8 degrés dans les terres, 8 à 11 près du littoral. C'est la fin de cette édition préparée ce soir avec Jean-François Braun. Je vous retrouve à 19h.